Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, le Mali toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle. Au Zimbabwe, la ZANU-PF saisit la justice pour contrecarrer le recours de l'opposition qui réclame l'annulation des résultats. Le bilan des victimes s'est alourdi en Italie après l'effondrement d'un viaduc à Gênes. Et puis au moins 37 morts après un nouvel attentat suicide à Kaboul, en Afghanistan. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Mali, l'annonce des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé a été reportée à demain matin pour des raisons pratiques. Soumaïla Cissé a dénoncé le système de compilation des résultats, notamment pour des chiffres attribués à des localités où le vote n'a pas pu se dérouler. L'ambassade des États-Unis à Bamako encourage les candidats à utiliser les canaux légaux pour régler les différends. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Depuis quelques jours, les journalistes rôdent autour du ministère de l'administration territoriale sous haute sécurité. C'est ici que les résultats provisoires doivent être donnés. Hier, le représentant de Soumaïla Cissé, au niveau de cette commission de centralisation, a claqué la porte. Abdramane Diarra donne les raisons.
J'ai attiré l'attention de l'ensemble des membres de la commission, y compris le président, en présence d'un préfet, le préfet de Diré, pour lui rappeler que nous avons une commune de Diré où les élections n'ont pu se tenir. Comment se fait-il que les candidats ont pu avoir des voix. Et n'ayant pas eu une réponse satisfaisante à ce cas, plus le cas de Tombouctou, Salamber, il y a beaucoup d'autres localités. Voilà, c'est pourquoi je me suis retiré hier dans l'après-midi pour dénoncer le bourrage d'urne.
La proclamation des résultats prévus a été reportée à demain, car jusqu'à présent, certains bulletins et résultats en provenance de Yuwaru et Tessalit ne sont pas encore arrivés. Par ailleurs, l'ambassade des États-Unis, dans un communiqué, encourage fortement les deux candidats et leurs partisans à utiliser les canaux légaux et constitutionnels pour régler les différends, indique le communiqué. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, la ville d'Agadez et plusieurs villages du nord sont menacés par des inondations dues à de fortes pluies. Rissa Feltou, le maire d'Agadez, a déclenché l'alerte rouge pour appeler les populations à plus de précautions et de vigilance. Une ambulance et ses deux passagers ont été emportés par les flots ce matin. Agadez et ses 145 000 habitants restent sous la menace des flots charriés par le Kori Telwa, un cours d'eau devenu redoutable suite à son alimentation par les eaux de pluie provenant des chaînes de montagnes de l'Aïr. Au Zimbabwe, après l'opposition, c'est le parti au pouvoir qui a saisi la justice pour qu'elle confirme la victoire du président Emmerson Mnangagwa à l'élection du 30 juillet dernier. La ZANU-PF veut contrecarrer le recours de l'opposition qui réclame l'annulation des résultats. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
Le parti présidentiel a déposé les documents de sa contre-requête auprès de la Cour constitutionnelle qui étudie déjà le recours du MDC, principal parti d'opposition. Le parti de Nelson Chamisa considère que l'élection du 30 juillet a été truquée en faveur d'Emmerson Mnangagwa. Il accuse le parti ZANU-PF et la commission électorale de fraude pour le premier scrutin au Zimbabwe depuis le départ forcé de l'ex-président Robert Mugabe en novembre dernier. Selon les résultats officiels, M. Mnangagwa a obtenu 50,8% des voix contre 44,3% pour Nelson Chamisa, le candidat du MDC. L'investiture de Mnangagwa, initialement prévue dimanche dernier, a été reportée jusqu'au verdict du tribunal. La Cour constitutionnelle a 14 jours pour trancher après le dépôt du recours de l'opposition le 10 août dernier. Après le scrutin, l'armée a tiré sur des manifestants de l'opposition, faisant au moins 6 morts.
Au Soudan, au moins 22 enfants âgés de 7 à 15 ans sont morts noyés dans le naufrage de leur embarcation sur le Nil alors qu'ils se rendaient à l'école. Une femme a également péri dans le naufrage. L'accident a été provoqué par l'arrêt du moteur de l'embarcation à mi-chemin en raison d'un fort courant. C'est ce qu'a précisé l'agence de presse soudanaise Suna. Plus de 40 enfants de la région de Kessaa se trouvaient à bord de l'embarcation au moment du drame. 9 enfants seulement auraient survécu, selon des témoignages. Suite aux violences en Tanzanie lors d'élections partielles, les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations. Dans un communiqué publié sur le site de l'ambassade américaine, les États-Unis s'inquiètent du déroulement des élections partielles qui ont eu lieu en Tanzanie le 12 août 2018, à la suite de rapports crédibles faisant état de violences, irrégularités, intimidations et arrestations de membres de l'opposition. En Angola, le corps de Jonas Savimbi, chef historique de la rébellion angolaise UNITA, tué en 2002, eh bien son corps sera exhumé avant la fin de l'année pour être enterré dignement. Ce sont les mots d'Isaias Samakuva, leader de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, qui a assuré avoir reçu des garanties du président João Lourenço, selon lesquelles les restes de Savimbi seraient rendus avant la fin de l'année. En Libye, une cour de justice a condamné à mort 45 personnes accusées d'avoir tué des manifestants à Tripoli pendant la révolte contre le régime de Muammar Kadhafi en 2011. Au total, 124 personnes, toutes en détention, sont jugées dans cette affaire. Parmi elles, 45 ont été condamnées à mort par fusillade, 54 à 5 ans de prison et 22 ont été acquittées.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde. En Italie, le bilan de l'effondrement d'un pont autoroutier à Gênes a été revu à la hausse. Les services de la protection civile parlent de 39 morts et de 15 blessés. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Trois enfants âgés de 8 à 13 ans figurent parmi les victimes. L'effondrement encore inexpliqué de cet ouvrage massif en béton, construit dans les années 60, a précipité environ 35 voitures et quelques camions dans le vide. Le pont, long de 1,18 km, s'est effondré sur plus de 200 mètres. Le gouvernement a promis de traquer les responsables du drame, pointant du doigt la société gérant l'autoroute. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Danilo Toninelli, a appelé ses dirigeants à démissionner. Il dit avoir lancé une procédure pour révoquer toutes les concessions de cette société qui gère l'essentiel des 6000 km d'autoroute du pays. La révocation des concessions est un minimum, a lancé Matteo Salvini, vice-premier ministre. Mardi soir, Giuseppe Conte, chef du gouvernement, a annoncé un plan de contrôle des infrastructures. Le pape François a exprimé son soutien aux victimes devant des milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre à Rome à l'occasion de la fête catholique de l'Assomption.
En Afghanistan, un attentat suicide à l'intérieur de l'un des établissements d'enseignement de Kaboul a fait au moins 25 morts et 25 blessés. Les détails avec Bagasikoura.
Selon le porte-parole de la police de Kaboul, l'attaque a eu lieu alors que les étudiants étaient en cours. Les blessés ont été évacués dans des hôpitaux locaux. Mouhoud Academy se trouve dans la partie chiite de Kaboul. Bien qu'aucun groupe n'ait revendiqué cette attaque, on sait que des attentats antérieurs contre des chiites à Kaboul ont été revendiqués par le groupe État islamique. L'attaque de Kaboul survient à un moment où le gouvernement fait face à de fortes pressions des talibans sur plusieurs fronts. Un raid mené par des talibans à l'aube sur une base militaire à Baghlan, dans le nord de l'Afghanistan, a tué 40 membres des forces de sécurité. Les forces gouvernementales ont également mené une intense bataille pour le contrôle de la ville de Ghazni, prise d'assaut vendredi dernier par les talibans. Les combats auraient fait une centaine de morts. Les Nations Unies soulignent que les affrontements ont provoqué une crise humanitaire. Les habitants font déjà face à des pannes d'électricité et à des pénuries d'eau et de nourriture.
Inondation en Inde, dans l'état du Kerala, 67 personnes sont mortes et plus de 50 000 personnes ont été déplacées. Des crues soudaines dues à la mousson ont provoqué depuis quelques jours glissements de terrain et inondations. Après plusieurs jours d'errance, le navire Aquarius est arrivé en début d'après-midi à Malte où il a finalement été autorisé à accoster. Le gouvernement maltais avait donné son feu vert hier mardi après un accord pour répartir entre 5 pays européens ces 141 migrants secourus vendredi dans les eaux internationales au large de la Libye. L'armée israélienne a annoncé avoir classé sans suite l'enquête sur une opération meurtrière en août 2014 dans la bande de Gaza, qualifiée de crime de guerre par des ONG. Un mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 1er août 2014, l'armée avait lancé une opération à la suite de la capture d'un de ses soldats. Cette journée qualifiée de vendredi noir avait coûté la vie à au moins 110 Palestiniens, selon l'armée. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Raïssa Girondin.
Le Congo est bien loin de la banqueroute, a affirmé son président Denis Sassou Nguesso à l'occasion de la fête nationale ce mercredi. Le pays est toujours en négociation avec le Fonds monétaire international. Nous espérons parvenir à un accord qui contribuera sensiblement à améliorer la situation de nos finances publiques, selon le président. Le Gabon voisin, également touché par les fluctuations des prix du pétrole, est parvenu à cet accord il y a un an. En Mauritanie, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Yahya Oud Abdedayem, a indiqué que le niveau d'accès à l'eau potable dans le pays est passé de 44% en 2008 à 70% en 2018. Pendant cette période, plus de 1100 réseaux d'adduction d'eau potable et 650 puits artésiens ont été réalisés et équipés, a précisé le ministre en lançant un important projet hydraulique à Kifa, à 600 km au sud-est de Nouakchott. Selon lui, ces infrastructures hydrauliques ont profité à près de 1,2 million de personnes. Le Trésor américain a annoncé des sanctions financières contre deux entreprises russes et chinoises accusées d'avoir continué à avoir des relations commerciales avec la Corée du Nord, malgré l'embargo contre Pyongyang. Il est reproché au groupe chinois Dalian Sun Moonstar d'avoir exporté de l'alcool et des cigarettes vers la Corée du Nord en falsifiant les documents de livraison. Une société russe, Profinet, est également sanctionnée pour avoir fourni des services portuaires à des bâtiments nord-coréens.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
La Super Coupe d'Europe, ce soir, ira à un club espagnol.
Et oui, le match ce soir, la Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Un derby madrilène qui se joue à Tallinn en Estonie, qui verra notamment la première pour le nouvel entraîneur du Real, Julen Lopetegui, et un premier titre en jeu. Sur ce match, le Real est favori pour égaler le Milan AC et le FC Barcelone, déjà vainqueur du trophée à 5 reprises. Mais attention aux Colchoneros d'Antoine Griezmann, tenant du titre de l'Europa League et surtout invaincu en Super Coupe d'Europe. Deux participations, deux titres, c'était en 2010, en 2012. Quels visages vont présenter les Galactiques sans Cristiano Ronaldo parti à la Juventus Turin et sans l'entraîneur Zinedine Zidane? Les Meringuets qui vont compter notamment sur Karim Benzema et Gareth Bale, sans oublier le meilleur joueur du Mondial 2018, Luka Modric. Pas sûr qu'il soit aligné sur la pelouse ce soir.
Football, la suite du marché des transferts.
L'attaquant international ivoirien Wilfried Zaha a prolongé jusqu'en 2023 son contrat avec Crystal Palace. Le buteur de 25 ans poursuit ainsi sa longue histoire avec l'équipe du sud de Londres qu'il a rejoint à 12 ans à son centre de formation. À part une quinzaine de matchs avec Manchester United et Cardiff City entre 2013 et 2014, Zaha a été fidèle aux Eagles depuis ses débuts en pro, c'était en 2009. Et puis le FC Sion a officialisé l'engagement d'Alexandre Song, ancien milieu défensif de Barcelone et d'Arsenal. L'international camerounais a signé un pour les deux prochaines années. Avec les Lions indomptables, Song totalise 49 sélections, 2 participations à la Coupe du Monde et une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, Mathias Pogba, le grand frère du milieu de Manchester et champion du monde Paul Pogba, a été recalé par un club de 3e division allemande qui le juge tout simplement trop gros. Le KFC Werder Bremen, qui est monté en 3e division en mai dernier, a remporté 3 de ses 4 premiers matchs de la saison. Mathias Pogba, 27 ans, qui revient d'une année de blessure, n'a actuellement plus de club. Il est né à Conakry et Pogba, Mathias, a joué à 5 reprises pour la sélection guinéenne.
Le football égyptien, de nouveau ouvert aux spectateurs.
Et oui, le ministre de la Jeunesse et des Sports égyptien, Ashraf Sobhi, a annoncé que les supporters pouvaient désormais retourner au stade. Les enceintes sportives devraient pour le moment accueillir 5000 spectateurs à partir du 1er septembre prochain, principalement les étudiants. Depuis des années, vous le savez, les Égyptiens ne peuvent plus assister aux rencontres du championnat après le drame de Port Saïd. C'était le 1er février 2012. Al-Masri affrontait Al-Ahli, un match qui avait fait 74 morts et plus d'un millier de blessés.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Le Sénégal doit faire l'une de ses priorités la tenue de procès équitables et y mettre fin immédiatement à l'intimidation et au harcèlement des leaders de l'opposition. C'est ce que souligne Amnesty International dans un rapport intitulé « Des paroles non suivies d'actes » mettant en exergue le cas de Khalifa Sall, maire de Dakar, emprisonné à l'approche de l'élection présidentielle de 2019. Jacques Aristide, envoyé spécial de VOA Africa Dakar, fait le point avec Sedi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal.
La situation des droits humains au Sénégal est très très loin d'être bonne. Le Sénégal a été pendant longtemps la nation phare en Afrique en matière de démocratie et de respect des droits humains. Mais nous avons observé beaucoup de recul depuis 2009 avec l'ancien président Blaise Wade. Nous avions estimé que Macky Sall, qui a été élu à la suite d'émeutes et de violations graves des droits humains, allait vraiment opérer une rupture dans le bon sens. Malheureusement, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a repris les mêmes pratiques qui ont marqué la fin du règne d'Ablaye Wade, avec notamment des interdictions de manifestations. Par rapport à la violence policière, il n'y a eu aucun changement. Bien au contraire, les décès dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie ont continué à se multiplier avec une impunité presque totale.
Il y a un autre point que vous soulignez, c'est la question de procès inéquitables. Alors, c'est quoi le problème et pouvez-vous nous donner des exemples concrets ?
L'exemple le plus concret, c'est le cas de Khalifa Sall. Khalifa Sall, sa détention a été émaillée de bout en bout d'irrégularité. La première irrégularité, c'est d'abord de l'interroger sans lui permettre d'avoir accès à un avocat, et cela a été relevé par la Cour de justice de la CEDEAO. Cela était suffisant pour annuler la procédure, parce que le Code de procédure pénale prévoit expressément que lorsque vous êtes arrêté, dès votre interpellation, on doit vous informer que vous avez droit à un avocat. Donc c'est une raison suffisante pour que la procédure soit annulée et qu'il retrouve la liberté. L'autre irrégularité, évidemment, que la CEDEAO a relevé aussi, c'est son immunité parlementaire. La constitution du pays est extrêmement claire. Tout député élu bénéficie d'une immunité parlementaire. Et nous, à l'époque, nous avions demandé à l'État de le libérer et ensuite de procéder à la levée de son immunité. On a pas accéder à cette demande.
Mais en même temps, on peut vous dire qu'il y a eu une enquête, qu'il y a eu un procès et que finalement, on l'a trouvé coupable. Donc, et de venir dire qu'il n'a pas bénéficié
d'un procès. Vous savez, c'est ce discours qui est tenu par des ministres ou responsables montre simplement le cynisme des gens qui dirigent le Sénégal aujourd'hui. Ce sont des personnes extrêmement cyniques. Vous savez, Khalifa Sall, il a été le premier homme politique au Sénégal à faire une déclaration de patrimoine. Dès qu'il a été élu à la tête de la mairie de Dakar, donc dans cette affaire, il n'y a absolument rien du tout.
Voilà, c'était Sedi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal. Comment la sortie d'Amnesty International peut jouer sur l'image du Sénégal, un pays perçu comme un modèle de démocratie en Afrique ? Abdourahmane Dia a joint à Dakar le journaliste Madiambal Diagne.
Bon, il faut comprendre que le devoir ou le droit de veille de l'ONG comme Amnesty International est de rigueur et que toute situation qui peut être perçue comme une menace contre les libertés ou une entrave aux libertés publiques peut être une source de réaction d'Amnesty International. Par contre, je trouve que la position vis-à-vis du Sénégal me semble excessive. Dire que les hommes politiques sont embastillés comme on veut le faire croire ne me semble pas. Les dossiers judiciaires qui ont été instruits pays ici au Sénégal ont révélé que des hommes politiques ont eu des indélicatesses avec la loi. Ce n'est pas parce qu'on est un homme politique qu'on peut détourner de l'argent public ou bien violer la loi sans être poursuivi. Chaque citoyen sénégalais qui violerait la loi serait poursuivi. Pourquoi bannirait-on les hommes politiques? Si c'est le cas, tous les délinquants seraient devenus des hommes politiques.
Certains diraient aussi que ce sont plutôt les hommes politiques de l'opposition. Si on prend par exemple le cas de Khalifa Sall qui a récemment déclaré sa candidature, même si c'est démêlé avec la justice, précède un peu sa déclaration de candidature.
Ah ben justement, vous le soulignez bien. Si chaque homme politique poursuivi peut se déclarer candidat à la présidence de la République pour souhaiter avoir un parapluie ou bien peut-être bénéficier d'une immunité de campagne, donc on s'en sortirait pas.
Il n'était pas forcément un grand ami du régime en ce moment.
Il n'était pas non plus un grand ennemi du président de la République ou de son régime. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse regarder de plus près qu'est-ce qu'il y a reproché à Khalifa Sall. C'est des faits qui ont été là et qui, aujourd'hui, ont même été reconnus par l'intéressé lui-même. Et des éléments de preuve qui ont été apportés n'ont pas été infirmés ou démentis. Dans ces conditions, comment peut-on ne pas ouvrir une information judiciaire et appliquer les rigueurs de la loi? La loi sénégalaise en matière de traitement de deniers publics est très précise. C'est une loi qui date de 1965. Peut-être qu'il faudrait la réformer, je ne sais pas. Mais en l'état actuel du droit positif sénégalais, toute personne poursuivie pour des faits similaires doit être emprisonnée jusqu'à ce que la procédure judiciaire soit terminée. À défaut d'emprisonnement, la personne doit pouvoir cautionner les sommes qui lui sont réclamées et faire preuve de contestation sérieuse. Dans le cas présent, Khalifa Sall n'a pas contesté. Lui, il a reconnu les faits. Et il n'a pas cautionner les sommes nécessaires, je pense qu'on lui applique la loi comme on l'appliquerait à tout le Sénégalais. Moi, alors, ce que j'aurais souhaité comme attitude, qu'on puisse me dire qu'on ne lui a pas appliqué la loi comme on a appliqué la loi avec d'autres Sénégalais.
Alors, Madiambel Diagne, en tant qu'observateur de la scène politique sénégalaise, quand des ONG comme ça s'en prennent au Sénégal, ce qui n'est pas très fréquent, est-ce que vous ne craignez pas pour l'image de votre pays à l'approche des élections?
Ah ben bien sûr, c'est toujours regrettable qu'on puisse pourfendre un pays de la sorte. Maintenant, le rôle des ONG qui est de mettre la pression sur les pouvoirs publics est un rôle que je salue et que je trouve normal. Maintenant, le combat, ce n'est peut-être pas d'expurger ou bien enfin, de protéger les gens des procédures judiciaires, c'est de faire en sorte que tous les délinquants soient poursuivis. Pour moi, c'est ça l'enjeu du combat.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le Congo-Brazzaville fête son 58e anniversaire d'indépendance, mais le pays traverse une crise grave financière. Malgré les efforts du gouvernement, aucun accord n'a pu être signé avec le FMI. L'institution financière internationale continue d'exiger aux autorités des mesures audacieuses. Les précisions avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Toujours pas d'accord avec le FMI. Le dernier rendez-vous du Congo avec l'institution financière a été annulé et c'est pour la 6e fois que cet agenda n'est pas tenu. Apparemment, le mal se trouve côté congolais. L'économiste Hassène Bozir, membre des LITIE, explique.
Le FMI voudrait avoir des assurances, être convaincu que les engagements pris par le gouvernement sont respectés, de telle sorte qu'il avance. Ils attendaient que le Congo fasse de vraies réformes sur la SNPC. Les choses n'ont pas bougé. Les mêmes dirigeants qui sont à l'origine, par exemple, du chaos au niveau de la SNPC, en dehors de Christelle Denis Sassou Nguesso qui a sauté, on ne voit pas un autre dirigeant qui a sauté, alors que c'est les mêmes. Vous avez au niveau de le portefeuille public. Toutes ces entreprises sont presque en faillite. Mais le gouvernement ne bouge pas. Quelles sont les mesures prises? Il n'y a rien. Vous avez sur le train de vie de l'État. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement est budgétivore. Vous avez un gouvernement pléthorique.
La situation est intenable pour les populations, notamment les boursiers et les retraités dont les pensions ne sont plus payées depuis des mois. Clément Mirassa, statisticien et ancien ministre du Commerce, évoque sa situation de retraité et décrit celle du pays.
Écoutez, aujourd'hui les retraités sont pratiquement à 16 mois d'arriéré. Et il y a un lot des milliers de retraités qui ne sont pas encore pris en compte au niveau de la grève. Mais il faut, c'est un problème extrêmement sérieux. Avoir le courage de s'attaquer à la lutte contre la corruption. Si nous ne le faisons pas, ce n'est même pas l'accord avec le Fonds monétaire qui nous fera avancer.
Mais le président Denis Sassou Nguesso, dans son message du mardi soir à la Nation, est resté optimiste sur la conclusion de cet accord. Au PCT, son parti, on estime que le FMI est une démarche salvatrice. Le porte-parole, Serge-Michel Udzouki.
Ben nous, au niveau du Parti Congolais du Travail, on est d'abord préoccupé par la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et nous soutenons le gouvernement, le camarade président du comité central dans sa démarche vers le FMI pour arriver à une conclusion. Et nous soutenons surtout la détermination du gouvernement, du président de la République à lutter contre les antivaleurs.
En attendant de conclure avec le FMI, un plan national de développement dont la réalisation exige plus de 15 000 milliards de francs CFA en 5 ans vient d'être adopté. Augustin Benazo, analyste économique.
Quand tu prends la somme des dettes que le Congo a aujourd'hui, ça fait au-delà des 15 000 milliards que le PND sollicite pour sa mise en œuvre. Donc le PND, pour nous, ce n'est pas la solution immédiate, c'est une solution à long terme.
Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
La Turquie a fortement augmenté les tarifs douaniers de plusieurs produits américains emblématiques, alimentant une crise diplomatique avec les États-Unis qui a fortement malmené la livre turque. Comment expliquer cette chute de la monnaie turque? Idriss Fall a joint Jean Marcoux, professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble et ancien directeur de l'Institut français à Istanbul.
Je crois qu'il y a une baisse tendancielle de la monnaie turque, que depuis 7-8 ans a perdu 70% de sa valeur, mais en particulier depuis 4 ans, elle a perdu de près de 40%. Et là, ces derniers jours, ça s'est accéléré, notamment depuis ce début de crise aiguë entre les États-Unis et la Turquie.
Erdogan accuse le président Donald Trump.
Oui, il y a une sorte d'épreuve de force entre les deux hommes, mais il y a une crise qui a probablement deux origines. D'une part, cette tendance et d'autre part cette accélération qui a suivi finalement une épreuve de force qui est devenue, au-delà d'une épreuve de force entre deux pays, une épreuve de force entre deux hommes à propos de cette affaire d'emprisonnement du pasteur Brunson.
Donc derrière le pasteur Brunson, Ankara demande aussi qu'on leur livre Fethullah Gulen.
Il y a depuis plusieurs années entre les États-Unis et la Turquie, en dehors de désaccords, en particulier sur la Syrie, à propos des Kurdes syriens, il y a des désaccords d'ordre judiciaire, une série d'affaires judiciaires qui empoisonnent les relations turco-américaines. Alors, il y a effectivement celle du pasteur Brunson, qui est en première ligne actuellement, mais il y a aussi, comme vous le disiez, le problème de l'extradition de Fethullah Gulen. Et il y a également l'emprisonnement d'un ancien dirigeant d'une banque publique turque qui a été accusé d'avoir contrevenu à l'embargo avec l'Iran et qui est actuellement emprisonné également aux États-Unis. Il y a d'autres affaires encore. Ces affaires, dans ce contexte, effectivement, sont un élément supplémentaire qui empoisonne les relations entre les deux pays.
Est-ce que Ankara a les moyens de faire de la résistance économique comme le menace Erdogan?
Oui, je pense qu'effectivement, Ankara essaye de prendre des mesures économiques, mais je crois que tous les éléments entrent en compte. Il n'y a pas seulement les questions économiques, il y a également les problèmes d'armement, il y a également les questions stratégiques. Le problème dans le contexte actuel, c'est qu'on a un différend qui a pris, qui s'est enchevêtré autour de cette affaire Brunson, et finalement avec un engagement des deux leaders politiques, Erdogan et Trump, qui sont deux personnalités très obstinées. Donc on a un risque d'escalade qui vient de cette opposition de personnalités.
La Turquie est alliée de l'OTAN et que la principale base américaine de lutte contre le groupe État islamique se trouve aussi en Turquie.
Oui, c'est la base d'Ingirlik. Et d'ailleurs, pour l'instant, on observe que la Turquie a parlé beaucoup de rétorsion. Elle a pris des mesures contre les secrétaires américains qui étaient des mesures qui se voulaient des ripostes aux mesures prises contre les ministres turcs, mais enfin qui étaient très symboliques. Il y a eu effectivement ces déclarations d'Erdogan sur l'idée de jeter un embargo sur l'électronique américaine. Mais une des cartes qu'a la Turquie effectivement en main, c'est la base d'Ingirlik. Et pour l'instant, on s'aperçoit que la Turquie n'a pas ouvertement évoqué cette base.
Jean Marcoux, professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble et ancien directeur de l'Institut français à Istanbul. Cette édition, merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Cheikh Thierrot, à la console Sidrak Franklin, au micro Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com et notre page Facebook bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.